BW. Droits et libertés.
En ce moment, les musulmans du monde entier jeûnent pour le Ramadan. Ces fidèles sont les premières victimes des violences des terroristes djihadistes dans le monde, mais aussi des retombées hostiles dans les opinions publiques occidentales de ces mêmes violences. Alors on va chercher cette semaine et la semaine prochaine à voir comment fonctionne la machine idéologique de ces terroristes et quel est le terreau qui les prédispose à proliférer. Ces terroristes qui prétendent faire la guerre au nom d'un dieu et pourquoi les États n'en viennent pas à bout. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous.
Au début de la crise, les centres ont été vandalisés, les agents de santé avaient fui, mais avec le retour, de plus en plus les enfants viennent vers les centres de santé, mais il y a toujours sur la route des questions de sécurité. Et les mamans souvent ont peur de venir vers là. Et ça impacte sur l'état nutritionnel des enfants et ça impacte sur la santé des enfants.
Konindiou Diallo travaille pour l'UNICEF à Tombouctou, dans le nord du Mali, une région où 10% des enfants souffrent de sous-nutrition et où 90% de la population vit dans la pauvreté. L'insécurité a plombé l'économie, les violences rendent l'agriculture, l'accès au pâturage difficile et puis elles tiennent éloignées les touristes qui faisaient vivre certains habitants.
Les conséquences, c'est les maladies qu'on peut éviter. Par exemple, comme l'année dernière, on a eu des épidémies de rougeole, alors qu'il y a le vaccin ici, dans les frigos.
La crise qui a éclaté au nord du Mali s'est étendue jusque dans le centre du pays, une zone frappée à son tour par des massacres comme à Ogossagou, près de Bankass, c'était le 23 mars dernier, où 160 personnes ont été tuées, apparemment suite à des tensions intercommunautaires, dans une région où pourtant les communautés vivaient en bonne intelligibilité depuis des millénaires. Les civils, qui sont les premières victimes des violences, en ont assez. Des manifestations sont organisées jusqu'à Bamako, pour dire non à la guerre qui tue des enfants, des parents, des femmes enceintes. Mais certains Maliens reprochent aussi aux missions étrangères sur place leur inaptitude, malgré des millions d'euros qui sont investis et le personnel civil et militaire déployé, à venir à bout des djihadistes et à ramener la paix. L'opération Barkhane est la mission antiterroriste lancée par la France, une mission robuste destinée à faire la chasse aux djihadistes dans le Sahel. Au Mali, il y a aussi la MINUSMA qui doit aider à la stabilisation du pays sous mandat onusien. Le Mali, comme le Nigeria, le Niger ou le Burkina Faso, tentent d'endiguer le terrorisme depuis des années maintenant. L'aide internationale s'est organisée sous la forme de missions onusiennes, donc comme la MINUSMA dont on parlait à l'instant, ou de formations de l'armée nationale comme l'EUTM Mali, ou toutes les formations qui sont proposées par l'armée américaine. Mais aussi, il y a des livraisons d'armes et de matériel militaire pour appuyer les États confrontés à la guerre asymétrique. Mais l'émergence des mouvements armés de la région, ou du moins leur prolifération et leur renforcement, a été possible grâce à la faillite de ces mêmes États, souvent corrompus et qui ont délaissé des pans entiers de la population civile dans leur politique publique pendant des années.
Allahu Akbar ! Allahu Akbar ! Kabru ! Allahu Akbar !
Vous vous en souvenez sans doute, c'était en 2012 à Tombouctou. Des islamistes détruisent à coups de pioche les célèbres mausolées de la ville. En faisant cela, ils tentent symboliquement de réduire en miettes la tradition de tolérance de la région. Chaque coup porté à ces constructions de terre est un affront à tous ceux qui, depuis des siècles, se sont efforcés de vivre avec et ouverts sur le monde. Un certain Oumar Ould Amara se présente à l'époque comme le porte-parole des vandales extrémistes. Il revendique son appartenance à l'organisation en Sardine, elle-même liée à Al-Qaïda.
Depuis combien de temps les prêcheurs sont en train de prêcher au Mali comme en Afrique, comme partout dans le monde entier? Les imams des mosquées tous les vendredis. Mais rien n'a changé. Les femmes ne portent pas de voile. Il y a des lieux de débauche, il y a des boîtes de nuit, il y a des discothèques, il y a des musiques partout. Alors, depuis que le sabre a commencé, c'est-à-dire depuis que le djihad a commencé, en quelques mois, en quelques semaines, regardez vous-même.
C'est par cet acte médiatisé avec brio par les djihadistes eux-mêmes que le reste du monde apprend que des groupes armés sillonnent désormais le nord du Mali. Les djihadistes prennent le contrôle de Tombouctou, Kidal, Gao, ils instaurent la charia, interdisent la musique, dictent aux femmes la façon dont elles doivent s'habiller, imposent à la population une seule et unique façon de se comporter. À plus de 2300 km de là, dans le nord-est du Nigeria, c'est Boko Haram qui terrorise aussi la population depuis une dizaine d'années. L'armée nigériane n'en vient pas à bout. Son fondateur, Mohamed Youssouf, prétend lui aussi combattre au nom de l'islam. Il refuse l'État et le gouvernement établi. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, ses prêches enthousiasment de nombreux fidèles, lassés alors par la corruption et le népotisme.
Dans le Coran, on peut lire que Dieu a dit que les impies sont des menteurs. Je vous le jure, ce sont des menteurs. Allah a dit, ils savent bien parler, mais ne sont pas honnêtes. Leurs paroles ne correspondent pas aux sentiments de leur cœur.
Les gouvernements répondent alors avec fermeté. Ils adoptent des législations antiterroristes qui restreignent fortement les libertés individuelles. Ils s'affranchissent du respect des droits les plus fondamentaux de leurs citoyens sous couvert de combattre le terrorisme. La France, l'Allemagne, les États-Unis appuient la lutte des gouvernements africains. Marc Pérouse de Monclos, chercheur français et directeur de l'Institut de recherche pour le développement.
Est-ce que l'Afrique est une nouvelle terre de djihad ? Et la réponse est clairement non. C'est pas la peine de se prendre trop la tête pour savoir qui est affilié à Daesh ou à Al-Qaïda. Ce qui est important, ce sont les dynamiques locales. C'est elles qui expliquent l'émergence de ces groupes, leur résilience également. Évidemment, ça pointe sur des sujets assez compliqués, comme les dysfonctionnements des États africains, notamment dans la zone sahélienne, où ces groupes prospèrent, les questions de corruption, de violation des droits de l'homme, de répression extrêmement brutale qui nourrissent ces conflits. Et du coup, ça nous éloigne un petit peu en fait, des questions du fanatisme religieux ou de l'endoctrinement salafiste.
Selon Marc Pérouse de Monclos, la prolifération des milices armées comme en Sardine ou le GSIM au Mali, cela arrange aussi les affaires de certains gouvernements qui ont érigé le djihadisme international comme le grand et le seul ennemi à combattre. A l'inverse, de nombreux groupes armés prêtent allégeance aux grandes nébuleuses du terrorisme islamiste international comme Al-Qaïda ou plus récemment le groupe État islamique. C'est le cas par exemple il y a quelque temps des ADF dans l'est du Congo qui revendique désormais une affiliation à Daesh. Ça leur permet d'obtenir des financements, de recruter de nouveaux combattants, bref, d'utiliser l'image de la maison mère, pour employer une expression un petit peu schématique. Et pendant ce temps, les gouvernements du Mali, du Nigeria, du Tchad ou encore du Cameroun utilisent aussi le djihadisme comme repoussoir absolu, un peu comme l'Occident le faisait avec le communisme durant la guerre froide. Une façon pour eux d'obtenir aussi du soutien matériel, logistique et financier des grandes puissances occidentales. Ce double mécanisme entretient les conflits dans le Sahel, ce que déplore le professeur Bakary Samb de l'université Gaston Berger au Sénégal. Il travaille sur les phénomènes de radicalisation et pour lui, il existe un lien historique, politique avec les programmes d'ajustement structurel qui ont été imposés par le FMI, la Banque mondiale et l'Occident en général dans les années 1980.
Les pays aujourd'hui qui nous demandent de lutter contre le terrorisme, ce sont ces pays-là qui nous ont demandé il y a 20 ans ou plus d'investir moins, de moins en moins, dans l'éducation, la santé et le social. Et de ce fait, on a laissé la place à des groupes et des ONG religieuses qui se sont installées, qui se sont substituées à l'État, qui ont construit des écoles, qui ont creusé des puits, qui se sont substituées à l'État. Et aujourd'hui, on est arrivé à cette situation-là.
Les organisations religieuses dont parle Bakary Samb viennent d'Arabie Saoudite, du Qatar ou des autres États du Golfe. Elles construisent des écoles coraniques, des mosquées dans les pays du Sahel et passent par ce biais pour imposer leur lecture très conservatrice de l'islam. Difficile à dire quelle influence ces structures ont réellement sur les esprits des populations. Quoi qu'il en soit, les chercheurs comme Bakary Samb déplorent que les États comme le Mali ne ripostent pas en investissant massivement dans les les infrastructures des régions les plus enclavées, comme le Nord, des régions délaissées pendant des décennies pour éviter à tout prix l'émergence d'une contestation organisée, de couper court à toute possibilité de rébellion efficace, voire de coup d'État. Un délaissement qui a conduit à un appauvrissement progressif mais massif et qui a permis de ce fait à la corruption et aux réseaux criminels de s'implanter.
Maintenant, ces groupes se contentent d'attendre tranquillement qu'il y ait des zones d'instabilité et ils les exploitent. Chaque fois qu'il y a un conflit local, tribal, culturel, on y met l'habit religieux. En faisant de sorte, on va présenter ces conflits comme étant des conflits terroristes, etc. Et en le faisant, ils savent ce qu'ils font, ces groupes. Ils attirent l'Occident dans le but de l'intervention ou de l'interventionnisme. L'intervention et l'interventionnisme avec les bavures militaires, les bavures sur le plan de la sécurité, causent d'autant plus de frustration au niveau de la population, ce qui assure aux mouvements terroristes une bonne base de recrutement de frustrés qu'on va engager avec la cause du djihadisme pour, encore une fois, déstabiliser cette région qui a déjà énormément de problèmes.
Nous continuerons la semaine prochaine à parler de ce phénomène et des réponses sociales qui sont apportées, notamment auprès de la jeunesse. Retrouvez-nous sur notre site internet www.com/français. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de votre fidélité et à Jens Borchers pour les sons. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour le second volet de cette émission consacrée au djihadisme. Droits et libertés, c'est le mardi et le jeudi à 17h30, temps universel.